BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et tout de suite, un tour d'horizon des marchés financiers avec nos deux correspondantes cet après-midi. Aude Kersulec au siège d'Euronext à La Défense et Sabrina Quagliozzi, bien sûr, en direct de New York. Sabrina, on commence avec vous. Comment s'annonce cette séance de mardi aux États-Unis ?
Tentative de rebond, Stéphane, sur ces marchés américains après une séance extrêmement volatile. Hier, on a vraiment hésité tout au long de la séance pour terminer au final sur une note négative. Ça fait suite à une semaine de forte hausse sur ces marchés américains. Pour le moment, donc, c'est la hausse qui l'emporte sur ces futurs américains avec un Dow Jones futur qui grimpe de 0,5%, pratiquement. Le S&P 500 futur affiche une hausse de 0,4% quant au Nasdaq futur. C'est une hausse de 0,2%. Une séance qui sera marquée par des chiffres de confiance des consommateurs pour le mois de juin, à surveiller tout à l'heure, par les commentaires également du président de la Fed de New York qui estime qu'une récession n'est pas son scénario de base. Il pense que l'économie est solide, l'économie américaine, et qu'une récession sera évitée. Alors certes, il s'attend à un ralentissement, mais pas de récession. Ce n'est pas le scénario en tout cas de Cathy Wood, d'Ark Invest, qui estime elle que l'économie américaine est déjà en récession. Elle a parallèlement avoué avoir sous-estimé la sévérité de l'inflation. Rappelons que son fonds principal Ark Innovation ETF a fondu de 52% depuis le début de l'année et de 66% depuis son plus haut. Une séance marquée par une belle performance des valeurs bancaires, alors que plusieurs établissements ont relevé leurs dividendes après avoir réussi les stress tests annuels de la Fed. Le dossier Spirit Airlines encore à surveiller. Et puis, les résultats du jour, ceux de Nike. On en parle bien sûr en détail ensemble tout à l'heure. Une ouverture donc attendue en hausse si on regarde ces futurs américains. Tout de suite, on va voir ce qui se passe du côté de la tendance à Paris avec vous, depuis la tour Euronext, et une tendance donc positive.
Et oui, c'est la journée du rebond, alors que hier matin, on avait eu un rebond de la même ampleur, mais ça n'avait pas tenu dans la journée, puisqu'on avait terminé en légère baisse. Et bien, aujourd'hui, avec plus de 1% de hausse, 1,1% à Paris, on a des raisons d'y croire. On est fièrement au-dessus des 6100 points, 6116 points. Alors, évidemment, qu'on a les yeux tournés vers ce qui se passe du côté du Portugal, avec les banquiers centraux qui se réunissent. Alors, ça a commencé hier et ça se terminera demain à Sintra, le forum annuel de la BCE. Alors Christine Lagarde a ouvert le bal des déclarations et a réaffirmé que juillet verrait une hausse de taux de 25 points de base pour la BCE et que bien ensuite cela dépendrait de l'inflation, mais ça pourrait être plus si besoin. Et puis la présidente de la BCE, on a un petit peu plus dit sur le nouvel outil anti-fragmentation. Enfin, en fait, elle a dit qu'il aurait pour objectif d'éviter le creusement des écarts de taux souverain, ce qui n'est finalement pas nouveau. Alors viendra ensuite les déclarations, les discours de Jérôme Powell et de Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre, qui sont également invités à ce forum. Les marchés les suivront. En tout cas, pour le moment, eh bien, ils apprécient. Hein. Donc c'est une hausse à Paris, puis en Europe d'ailleurs, puisque l'Eurostox prend 0,7%, même hausse en Allemagne, et puis une hausse un petit peu plus prononcée encore du côté de Londres, et le CAC, lui, qui prend quand même plus de 1,1% avec des secteurs industriels importants qui nous soutiennent aujourd'hui.
Alors justement, on va regarder les variations au sein du CAC 40 et notamment Aude avec une très bonne performance pour le secteur automobile.
Et oui, Renault qui prend plus 3,2%, 26,09€, avec déjà une bonne performance hier. Mais alors aujourd'hui, il y a eu une petite nouvelle sur un partenariat avec Atos qui va concerner l'analyse de données et qui vise surtout à faire des économies. On vise 200 millions du côté du constructeur. Alors ça soutient Renault plus 3%. Ça soutient aussi Atos d'ailleurs sur le SBF 120 qui prend plus de 3,7%. 7%, mais après, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de valeurs industrielles à la hausse aujourd'hui avec Safran, qui était la plus forte baisse hier et qui prend 3,4%, 96 euros. On a aussi Thales et Total Energy qui prennent plus de 2%. Et puis Airbus. Alors, Airbus a remporté un contrat de 160 millions d'euros qui concerne le satellite Forum de l'Agence spatiale européenne. Donc, Airbus qui est en hausse de 2,2%. On a les valeurs du luxe aussi qui sont, alors qui finalement ne sont pas celles qui gagnent le plus cet après-midi, mais qui sont impactées forcément par ce qui se passe du côté de la Chine, qui a annoncé un certain relâchement dans les durées de quarantaine à l'entrée sur son territoire. Et forcément, ça bénéficie à toutes les valeurs qui vendent largement sur le territoire chinois. Donc LVMH prend 1,8%, Kering 1,6%, et puis Pernod Ricard aussi, plus 1,2%. À signaler aujourd'hui le recul de Valneva qui perd 5% après l'annonce hier et vendredi en fin de semaine de son autorisation de mise sur le marché par l'Union européenne.
Merci beaucoup, Aude Kersulek. Pierre Bouchny, directeur de la recherche chez Kepler Chevreux, est en ligne avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Les valeurs du luxe qui rebondissent après l'annonce par la Chine d'une réduction de la quarantaine pour les étrangers qui vont entrer dans le pays, c'est un sursaut ou est-ce que c'est un retour à de bien meilleures conditions pour les valeurs du luxe ?
Non, c'est une tendance qui semble se dessiner, c'est-à-dire la normalisation de la situation en Chine. Donc, pour être précis, il y avait une quarantaine ou une période de surveillance de 21 jours qui était appliquée aux voyageurs en provenance de l'étranger, 14 à 21 jours selon les villes ou les provinces, qui ramenait à 7 jours plus 3 jours d'observation à domicile. Donc, donc c'est pas la fin de ces mesures de quarantaine, mais en tous les cas, ça va dans le bon sens et ça, je dirais, conforte l'idée que la Chine qui n'a pas été une motrice en 2021-22 comme précédemment, devrait progressivement retourner à la normale en termes de conditions sanitaires et redevenir un moteur de croissance pour l'économie mondiale. Donc effectivement, les valeurs du luxe sont celles les plus associées à la situation en Chine. Néanmoins, il faut rester quand même relativement prudent parce que ce qui a sauvé le secteur depuis un an ou deux, c'est le redémarrage des économies occidentales et en particulier des États-Unis qui ont été le moteur de la croissance du secteur et qui ont pris le relais de la Chine. Il est possible, voire assez probable, que ces moteurs s'éteignent pas, mais en tous les cas soient moins puissants à partir de 2023, compte tenu du contexte macro dans ces pays-là. Et donc, toute la question sur le secteur, c'est de savoir à quelle vitesse la Chine redémarrera et à quelle vitesse les États-Unis décéléreront. Et donc, c'est ça qui fera le paradigme du secteur en termes de croissance pour l'année prochaine. Et c'est sur cette question aujourd'hui que les investisseurs n'ont pas forcément de réponse. Nous, en tous les cas, chez Kepler, on a toujours une hiérarchie assez claire, qui est d'être à l'achat sur Hermès et LVMH. Hermès étant la marque la plus forte du secteur, la moins sensible à l'environnement et celle qui bénéficie du pricing power le plus important. LVMH, c'est la plus diversifiée. Je dirais, c'est le véhicule un peu passe-partout, si je peux me permettre l'expression. Et Kering est la marque sans doute la plus fragile ou la plus exposée à l'environnement, avec Gucci qui représente les deux tiers de ses résultats et qui est une marque qui est peut-être moins forte et plus dépendante des ventes d'accessoires que Hermès ou Vuitton.
Oui. Où est-ce qu'on en est en termes de valorisation sur ces valeurs ? Elles étaient devenues extrêmement chères depuis, évidemment, les ratios ont diminué.
Alors la prime s'est dégonflée, effectivement. Elle est toujours d'une quinzaine de pourcents, donc ça reste quand même un secteur intéressant pour les investisseurs parce que la dynamique de croissance est là. C'est un secteur où il y a du pricing power, il y a une demande qui est structurellement croissante. Donc on est revenu sans doute sur des zones d'achat de notre point de vue. On reste un peu prudent sur Kering, comme je viens de vous l'indiquer, parce que dans ce contexte, c'est Provençal qui a la potentialité ou le potentiel de sortir des résultats un peu décevants le plus élevé du secteur.
Un mot des valeurs pétrolières et du secteur de l'énergie en général. Les pays du G7 souhaitent plafonner les prix du gaz et du pétrole russe. Décision politique, on l'a bien compris. Pour autant, est-ce que cette décision est vraiment applicable ? Et surtout, est-ce qu'à votre avis, elle peut avoir un impact sur les valeurs pétrolières ?
Alors, au-delà de la Russie, ça paraît compliqué, puisque le prix du pétrole est... Alors, du pétrole et gaz, c'est un secteur qui est plus spécifique, mais en tout cas, le pétrole est un marché mondial. Donc, la volonté d'Emmanuel Macron de caper le prix du pétrole paraît quand même assez peu peu probable. D'ailleurs, les autres membres du G7 étaient un peu dubitatifs. Par contre, sur la Russie, c'est possible. Ça dépendra en fait de l'attitude des Chinois et des Indiens sur leur volonté ou non de remplacer les pays occidentaux comme clients de la Russie et donc de remettre la Russie au prix du marché. C'est une situation effectivement qui est, comme vous le dites, extrêmement politique et ça nous semble pas forcément très facile à mettre en œuvre. Le G7 a aussi s'est exprimé sur les profits très élevés réalisés par un certain nombre d'acteurs qui touchent le marché du pétrole. Donc ça visait en priorité les compagnies pétrolières, mais aussi peut-être d'autres types d'intervenants. Donc là, il n'est pas impossible que des mesures de type windfall tax qui ont déjà été mises en place en Grande-Bretagne, par exemple, soit mise en place de façon un petit peu plus globale. On a le sentiment quand même que ce ne sera pas de nature à changer complètement en la masse des profits de ces sociétés. Donc on continue à être relativement acheteur sur le secteur parce qu'on pense en fait qu'il y a des demandes, des éléments un peu structurels qui vont soutenir la demande, hein, au-delà des effets politiques. Mais vous avez le redémarrage de la Chine, qui a une consommation de pétrole en cette année qui sera quasiment du même niveau que l'année dernière. Donc c'est quelque chose d'assez inédit pour la Chine et qui devrait sans doute redemander un peu de moins d'un million de barils, c'est-à-dire 1% du marché l'année prochaine. Vous avez aussi un truc dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est le redémarrage du trafic aérien. La consommation de pétrole liée au kérosène, c'était à peu près 8 millions de barils. On était tombé à 5 millions, un peu plus de 5 millions l'année dernière. On sera à plus de 6 millions cette année, donc à peu près 1 million de plus. Et en 2023, on anticipe aussi 1 million supplémentaire. Donc, il est clair que le ralentissement économique aura des effets sur la demande, mais il y a un certain nombre d'éléments identifiés qui pourraient compenser ça. Et qui, s'il n'y a pas de redémarrage de l'offre, c'est sans doute tout le sujet, hein. Je pense que ça a été dit de façon un petit peu indirecte par le G7, et en particulier par le président Macron. Je pense que le sujet, c'est d'obtenir de la part des pays pétroliers, en particulier des pays du Golfe, une politique un petit peu plus expansionniste en termes de production.
Un dernier mot, Pierre, sur les valeurs du secteur automobile. Aude Kersulec le soulignait il y a quelques minutes. Elles sont en hausse parmi les meilleures performances du jour. 3% de progression pour Renault, 1,6% pour le titre Stellantis. C'est le moment de revenir sur ces valeurs ?
On est toujours assez prudent sur la consommation discrétionnaire au sens large, hein, et donc clairement le secteur automobile en fait partie. En émoi, il y a eu une news aujourd'hui qui était importante et qui est peut-être celle qui explique la performance du secteur. C'est une déclaration de Volkswagen, des dirigeants de Volkswagen sur Reuters, qui ont dit qu'ils n'avaient jamais autant fait de profit actuellement que par le passé, malgré la crise des semi-conducteurs et des problèmes d'approvisionnement. Ça veut dire que deuxième trimestre, d'abord, sera très bon en termes de résultats. Donc, c'est pour une première information. Et la deuxième, c'est de savoir jusqu'à quand cette situation durera. Parce qu'en fait, ces problèmes de supply chain, et en particulier de semi-conducteurs, ont eu pour conséquence de faire que les constructeurs automobiles sont concentrés sur les clients et les véhicules, les modèles les plus rentables. Ont eu des marges qui n'ont jamais été aussi élevées. Hein, on est à plus de 10% chez Stellantis. La question, c'est de savoir quand est-ce que cette situation se retournera. Donc le premier semestre 2021 sera bon. Il est assez probable que le deuxième semestre soit encore assez bon. Maintenant, la question, c'est 2022-2023. Nous, dans ce cadre-là, on est plutôt acheteurs, enfin clairement plus acheteurs des constructeurs que des équipementiers, puisque ceux qui prennent la marche sont les constructeurs, alors que les équipementiers n'ont finalement pas d'effet prix et des effets volume qui restent relativement négatifs.
Merci beaucoup Pierre Bouchny, directeur de la recherche chez Kepler Chevreux. Il est 15h15, on passe à la macroéconomie.
BFM Business, BFM Bourse, l'écho du monde en direct.
Christopher Dembig, directeur chez Saxo Bank, est en ligne avec nous. Bonjour Christopher.
Bonjour Stéphane.
Un chiffre pour commencer. En France, la confiance des ménages au plus bas depuis l'été 2013. L'indice qui a été publié ce matin par l'INSEE a reculé au mois de juin. Encore une fois, il est passé de 85 à 82. C'est le sixième mois de baisse consécutive. Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour la consommation.
Alors oui, c'est une mauvaise nouvelle. On l'attendait bien évidemment, hein, puisque quand vous avez des prix de l'énergie qui ne cessent d'augmenter, une inflation qui est perceptible quasiment sur tous les biens et les services, indéniablement, à certains stades, on s'attendait bien évidemment à ce que la consommation commence à être perturbée. On avait déjà des signaux, je le rappelle, de l'INSEE qui nous disait dès le début de l'année que la consommation pouvait être le point faible. Et on s'en était déjà rendu compte sur les chiffres du PIB au premier trimestre. Vraisemblablement, ça va être confirmé pour le deuxième trimestre, tout en échappant à ce tel sujet, la récession technique en France, est-ce qu'on l'aura ou pas ? Vraisemblablement, on devrait l'éviter. Mais on est dans une situation où il va falloir de nouveau, et on voit bien en termes de débat, hein, reparler de pouvoir d'achat et de mesures de soutien. Grosso modo, si on est très très clair, c'est à peu près les 15 à 20% de la population, donc c'est le premier quintile en termes de revenus, qui vont être vraiment les plus pénalisés par la situation actuelle. Il faudra effectivement trouver un levier en termes de mesures de soutien, et vraisemblablement on va y arriver, puisque c'est à l'heure actuelle, en tout cas en France, le type de discussion, sachant qu'on a d'ailleurs les mêmes types de discussions un peu partout dans les autres pays européens.
On va parler politique monétaire également, Christopher. La Banque Centrale Européenne ira aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation. C'est ce qu'a déclaré ce matin Christine Lagarde en ouverture du forum annuel de la BCE. Elle estime que l'inflation va rester excessivement élevée dans la zone euro pendant encore un certain temps et que cela représente un grand défi pour notre politique monétaire. Pour autant, Christopher, on attend une hausse de seulement 25 points de base pour les taux de la BCE lors de la prochaine réunion. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage considérable entre le discours de ce matin et les attentes pour le mois de juillet en matière de hausse des taux?
Alors pas complètement, parce que finalement ce que nous dit Christine Lagarde, c'est que la situation va être compliquée. Vous allez avoir d'un côté bien évidemment la question inflationniste, alors là il n'y a pas de débat, on voit que les fonds sont plutôt sur une ligne, on l'a vu hein, hier, plutôt 50 points de base. De l'autre côté, vous avez quand même un ralentissement de la croissance, je le disais avec la France mais aussi avec d'autres pays, qui va être le gros problème. Et je pense que Christine Lagarde en a parfaitement conscience. Donc jusqu'à quel niveau on peut se permettre d'augmenter les taux sans que ça nuise fortement à la croissance, c'est tout l'enjeu pour la BCE. Aux États-Unis, par exemple, on n'a pas ce débat, parce que la réalité aux États-Unis, c'est que vous avez une économie en surchauffe. Et donc, l'objectif, la hausse des taux, c'est de l'arrêter. L'objectif est clair, on lutte contre l'inflation prioritairement. En revanche, quand on doit lutter à la fois contre l'inflation et gérer un ralentissement économique, il faut être très franc, une banque centrale ne sait pas le faire, on n'a pas les outils. Donc, ça va être effectivement assez complexe à cet égard.
Merci beaucoup, Christopher Dembick, directeur chez Saxo Bank. On va maintenant parler immobilier.
BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO.
Les SCI prennent de plus en plus de place dans les contrats d'assurance vie. Pour quelles raisons et avec quels avantages pour les investisseurs? On va en parler avec Yann Witkok, directeur général d'Arkea REM. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Pourquoi est-ce que les assureurs vie proposent de plus en plus de SCI dans leurs contrats?
La première raison, c'est que c'est un produit qui plaît beaucoup aux épargnants. Hein. Ce qui caractéristique les marchés aujourd'hui, c'est vraiment l'incertitude, la volatilité. Et la pierre est toujours une valeur refuge. Et donc, les SCI sont plébiscités depuis quelque temps par les épargnants comme valeur refuge. Et surtout, dans une période inflationniste, l'immobilier a toujours été un très bon élément de protection contre l'inflation, puisqu'on a l'indexation des loyers qui nous permet de nous couvrir contre cette inflation.
Donc c'est vraiment à la demande des épargnants. On voit que les chiffres de la collecte confirment cet engouement.
Oui, c'est un vrai engouement. Et après, il y a le produit SCI en tant que tel versus SCPI ou PCI. On voit pas du tout la même dynamique sur l'OPCI, par exemple, parce que l'OPCI, c'est un produit volatile qui intègre une part action. La SCI, c'est un produit plus moderne, hein, puisque c'est des produits qui sont valorisés toutes les semaines ou deux fois par mois, mais vraiment beaucoup plus souvent, par exemple, qu'une SCPI. C'est un produit qui a une structure de coût beaucoup plus légère, qui n'a pas de délai de jouissance, donc un produit qui est beaucoup plus adapté aux demandes actuelles de l'épargnant.
Et quel est l'intérêt d'investir dans des SCI via un contrat d'assurance vie?
C'est un intérêt fiscal avant tout, hein, puisque l'épargnant va bénéficier du régime favorable de l'assurance vie. Et après, il y a un intérêt également de liquidité, puisqu'il y a une grosse collecte sur ces produits. Et donc, ça lui permet de pouvoir entrer et sortir plus facilement sur ces types de supports.
Quels sont les frais? On parle souvent évidemment des frais sur ces produits.
Alors, sur, à l'entrée, on est le standard du marché, c'est 2% à l'entrée, donc qui en général est remboursé, puisqu'on est sur des produits qui génèrent en général 4 à 5% de performance. Donc en 6 mois, vous êtes rentré dans vos frais. Et en frais de gestion, on est autour des 1,6% à peu près.
Ces dernières années, l'offre s'est considérablement étoffée, mais le label ISR reste peu développé en SCI. C'est selon vous un point faible ? C'est un bémol ?
Alors c'est un bémol, oui, mais l'idée c'est justement de proposer des produits qui sont labellisés ISR. Nous, on vient de lancer notre propre SCI qui s'appelle Territoire Avenir depuis le début du mois, qui est labellisé ISR. Le label ISR, il est très exigeant, donc c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est attendu par les clients. Il est robuste parce que on est audité tous les ans par l'organisme certificateur. Et puis au niveau immobilier, on peut montrer ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est des vraies mesures, le label ISR au niveau immobilier. Voilà, nous, c'est mesurer l'impact sur le territoire, c'est la mise en place de mesures favorables à la biodiversité sur nos actifs, c'est la maîtrise des consommations d'énergie. Donc, c'est du réel, en fait. C'est l'avantage de l'immobilier par rapport à l'autre classe d'actifs, si on est vraiment dans le réel.
Est-ce que la mise en place du questionnaire à partir du mois d'août va limiter la collecte en SCI ? Peut-être on peut expliquer le principe de ce questionnaire ?
C'est un questionnaire qui sera sur les risques, le risque de durabilité. Aujourd'hui, on n'a pas de recul, en fait. C'est vraiment la grande incertitude. Tout le marché se pose la question sur est-ce que ça aura un impact. Nous, on a décidé que tous nos produits qu'on allait sortir seraient labellisés ISR parce qu'on pense que c'est vraiment voilà, le sens de l'histoire. Et parce que c'est également un plus pour la performance à moyen terme des actifs. Ça veut dire ces actifs qu'on achète aujourd'hui, ces actifs immobiliers, du coup, on est plus exigeant, on les passe au travers d'une grille. Hein. Nous, notre grille, elle a 49 critères. Et donc, pour nous, c'est vraiment de la performance à moyen terme. C'est ces actifs qui, aujourd'hui, on se met des contraintes pour acheter ces actifs. Demain, ça sera plus de valeur parce qu'ils retiendront plus facilement les locataires et ils seront plus attractifs.
Quand vous dites que le marché se pose la question, il y a une crainte particulière ?
Non, je pense qu'il n'y a pas de crainte. Il y a besoin que le marché prenne vraiment la mesure de tout ce que ça veut dire le label ISR, parce que, encore une fois, c'est un label qui est exigeant et qui demande vraiment des investissements.
Quelles sont les grandes tendances en 2022 pour ce type de produit ?
Comme on le disait, c'est la labellisation ISR. Oui. Hein, ça va devenir, je pense, la norme pour ce type de produit.
Mais pas que
la transparence également, voilà, faire des produits qui disent leur stratégie et qui montrent ce qu'ils achètent. Voilà, on a reproché parfois aux SCI d'être un peu manquer un peu de transparence parce qu'il y a beaucoup d'SCI qui sont des fonds de fonds. C'est pour ça que nous, la SCI qu'on a décidé de lancer, c'est une SCI qui investit en direct dans des immeubles pour que chaque épargnant puisse savoir dans quoi il investit exactement.
Le contexte actuel est favorable, on en parle beaucoup, inflation évidemment, volatilité des marchés actions.
Voilà, exactement. C'est vraiment un contexte favorable. Et puis, des taux de rendement sur l'immobilier qui devraient commencer à remonter. Et donc, les produits qui se lancent aujourd'hui vont avoir l'opportunité de se positionner sur des actifs avec des rendements plus élevés et donc normalement d'offrir un peu plus de performance.
Merci beaucoup pour ces commentaires, pour votre analyse. Yann Witkok, directeur général d'Arkea REM. Merci d'être venu en plateau. La Bourse de Paris, on va en parler un petit peu avant de rejoindre 15h30. Et le coup d'envoi de la séance sur les marchés américains. On est en progression sur le CAC de 1,2% avec plusieurs secteurs qui se distinguent. Aude Kersulec nous le disait il y a quelques minutes, le secteur du luxe, évidemment bien orienté après la décision de la Chine de réduire la période de quarantaine pour les étrangers qui entrent sur le territoire. Cela évidemment devrait relancer l'activité économique et notamment le secteur du luxe. On sait que c'est très très important pour les valeurs du luxe. Le marché chinois, LVMH progresse de 1,9%, progression également de Kering 1,7% et de Hermès, très bien orienté également. Et puis les valeurs du secteur automobile se ressaisissent aussi en ce début de semaine, enfin ce mardi. On a notamment Stellantis qui gagne 1,8% et Renault qui progresse d'un peu plus de 3%. Quelques valeurs en baisse. On va les voir à l'écran sur le CAC. Capgemini abandonne 1,5%. Tout petit recul de Vivendi. STMicro Electronics en très léger recul, mais pratiquement inchangé. Un coup d'œil sur les cours du pétrole. On aura l'occasion d'y revenir après cette décision des pays du G7 de vouloir limiter les prix du pétrole et du gaz russe. On verra quel peut être l'impact sur le secteur. Pour l'instant, le baril est toujours en progression. $116.93 pour le Brent, le baril de la mer du Nord, et pour le WTI, la référence du marché américain, $111 pratiquement. On est en progression de 0,5%. L'euro-dollar, avant de marquer une pause sur l'euro-dollar cet après-midi, on est à 1,0528 en très léger recul pour la devise européenne. On marque une pause. Dans un instant, l'ouverture des marchés américains, ce sera bien sûr avec Sabrina Quagliozzi. On parlera notamment du secteur bancaire à l'honneur cet après-midi. A tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Stéphane Pedrazzi.
Il est tout juste 15h30 sur BFM Business. Les cotations démarrent à l'instant sur les places financières aux États-Unis. On va retrouver Sabrina Quagliozzi, notre correspondante à New York. Rebonjour Sabrina. Avant de vous donner la parole, à Paris, le CAC progresse de 1,13%. On va voir comment ce début de séance à Wall Street influe sur le marché européen. Sabrina.
Écoutez, c'est la hausse qui l'emporte avec un Dow Jones qui prend 0,5%. Stéphane, à l'ouverture, 31 607 points sur l'indice. Le S&P 500 affiche une hausse de 0,4%, 3 917 points. Quant au Nasdaq, petite hausse de 0,15% sur l'indice dans les toutes premières secondes d'échange sur ces marchés américains. Après une séance extrêmement volatile, hier, on a beaucoup hésité entre la hausse et la baisse pour finir au final sur une note négative. Ça fait suite à la semaine passée, hein, une très belle hausse hein, sur l'ensemble de la semaine sur les trois indices américains. Donc ce matin, hausse sur les trois indices. Une séance qui sera marquée tout à l'heure par la publication des chiffres de confiance des consommateurs pour le mois de juin, à surveiller bien entendu, alors que l'on a eu également l'indice S&P Case-Shiller sur le mois d'avril qui a montré un ralentissement de la hausse des prix des logements pour la première fois depuis de nombreux mois. Encore une fois, c'est une statistique qui concerne le mois d'avril, mais que les marchés regardent bien entendu, alors que le mot récession, bien sûr, inquiète. Alors vous avez John Williams, le président de la Fed de New York, qui s'est exprimé ce matin et qui estime qu'une récession n'est pas son scénario de base. L'économie américaine est solide, selon lui, et une récession sera évitée. Alors certes, ralentissement de cette économie américaine, mais pas de récession pour le moment, selon John Williams. Ce n'est pas le sentiment de Cathie Wood, d'Ark Invest, qui estime que l'économie est déjà en récession. Elle a avoué avoir sous-estimé la sévérité de l'inflation aux États-Unis. Son fonds Ark Innovation ETF hein, qui avait cartonné pendant la pandémie a fondu de 52% quand même depuis le début de l'année et de 66% depuis le pic. Séance donc de progression ce matin sur les trois indices américains. On garde un œil bien sûr comme toujours sur l'obligataire. Petite tension de ce côté-là, 3,21. Le pétrole de son côté est en hausse, 1,17%. On passe au-dessus des $110 le baril. Tout cela donc dans une tendance positive pour le moment. Donc on verra si ça dure bien entendu. Le Dow Jones plus 0,8%, 9% même. Ça s'accélère un tout petit peu. Le S&P 500 son côté prend 0,9% et le Nasdaq, Stéphane, affiche un gain de 0,7%.
Et du côté des valeurs, Sabrina, on va suivre Spirit, Nike qui est un petit peu déçu et puis surtout le secteur bancaire américain après les stress tests qui ont été menés par la Réserve fédérale.
Oui, les fameux tests de résistance annuels, c'est une réussite hein, pour les établissements bancaires américains. Du coup, vous avez plusieurs établissements qui ont relevé leurs dividendes. C'est le cas de Wells Fargo qui a quand même augmenté son dividende de 20%. Goldman Sachs qui est même allé plus loin avec une augmentation pardon de 25%. Hausse également du dividende du côté de Morgan Stanley ou encore de Bank of America. En revanche, Citi et JP Morgan ont préféré eh bien laisser leurs dividendes inchangés. Alors la réaction sur ce secteur, on est dans le vert sur sur toutes les valeurs. Wells Fargo prend 2,8% ce matin. Goldman Sachs plus 2,7% à l'ouverture. Morgan Stanley s'envole de 4%. Vous avez Bank of America qui prend 2,7%. Hausse également pour Citigroup, plus 2%, ou encore JP Morgan, qui affiche une hausse également de 2%. Alors, vous l'avez dit, autre dossier que l'on surveille, que l'on continue à surveiller, c'est Spirit Airlines qui va mettre la main sur la low-cost américaine. Nouveau développement dans ce dossier. Hein. Rappelons quand même que c'est une semaine importante puisque les actionnaires de Spirit Airlines doivent voter ce jeudi sur l'offre de Frontier Airlines, une offre d'ailleurs qui récemment a été améliorée. Eh bien, figurez-vous que JetBlue, qui est intéressé par le dossier, n'a pas dit son dernier mot puisqu'il a amélioré une nouvelle fois son offre sur Spirit Airlines, qui, de son côté, rappelons-le, hein, préfère Frontier pour les questions de feu vert des autorités, puisque selon Spirit Airlines, une fusion avec JetBlue n'obtiendra pas le feu vert des autorités. C'est en tout cas le sentiment de Spirit Airlines. Rapprochement soit avec Frontier, soit avec JetBlue, ça va créer la cinquième compagnie aérienne aux États-Unis. Réaction sur les titres concernés, vous avez Spirit Airlines qui prend 2% et JetBlue de son côté affiche une hausse de 2,5%. Allez, on termine avec Nike. Oui, vous l'avez dit, publication de résultats, c'était hier soir après la clôture. Alors, les chiffres sont ressortis sur le trimestre écoulé au-dessus des attentes, malgré les restrictions en Chine et un climat un peu plus compliqué de consommation aux États-Unis. Les prévisions, en revanche, pour le trimestre en cours sont un petit peu justes. Réaction sur le titre Nike, eh bien, figurez-vous qu'on est en hausse. On était en baisse en avant-bourse et c'est finalement la bonne humeur qui se répand, même sur ce titre Nike qui prend pratiquement 3% ce matin dans une tendance positive, Stéphane, sur ces marchés américains. Et ça s'accélère même puisqu'on est actuellement et désormais sur un gain de 1,4% du côté de l'indice Dow Jones, 31 880 points. Le S&P 500 affiche une hausse de plus de 1% et le Nasdaq plus 0,7%.
Allez, j'ajoute cette information, Sabrina. Airbnb a annoncé cet après-midi qu'il sera désormais interdit d'organiser des fêtes dans les logements loués sur sa plateforme. L'interdiction avait été mise en place provisoirement en août 2020 en raison de la pandémie. Elle sera désormais définitive parce que, figurez-vous, le nombre de signalements, c'est-à-dire de plaintes, a diminué de 44% depuis cette interdiction. Donc, on ne pourra plus louer une grande villa et organiser des fêtes chez Airbnb. Bon, faudra s'habituer. Allez, à tout à l'heure, Sabrina. Il est 15h36. Un petit coup d'œil au marché parisien. Je vous disais tout à l'heure qu'on était en hausse de 1,13%. L'ouverture à la hausse de Wall Street, évidemment, a donné un petit coup de pouce au marché européen. On est désormais en progression de 1,45%, 6135 points sur le CAC, avec toujours le secteur automobile bien orienté, le secteur du luxe également. On va en parler dans un instant dans Mouvement de marché.
BFM Business. BFM Bourse, mouvement de marché.
Aymeric Didet m'a rejoint en plateau, directeur de la gestion chez Pergam. Bonjour Aymeric.
Bonjour Stéphane.
D'abord un mot sur ces conditions de marché. On a quand même un petit peu l'impression que les choses s'améliorent depuis quelques jours.
Oui, on a une petite reprise depuis quelques jours, une petite reprise qui vient aussi après un mois qui est quand même compliqué. Le début du mois avait été relativement dur sur les marchés. Donc on arrive en plus en fin de trimestre, fin de semestre. Donc il y a aussi un peu d'ajustement dans les portefeuilles, chez les investisseurs, qui fait que on a tendance à voir le verre un tout petit peu à moitié plein dans un contexte de marché qui reste compliqué, des valorisations qui sont certes revues fortement à la baisse depuis 6-9 mois maintenant, et donc là on commence à avoir des niveaux aussi sur pas mal d'actifs qui font dire à certains que les niveaux actuels permettent de rétablir des positions, notamment sur certaines valeurs qui ont pour beaucoup atteint des niveaux achetables aujourd'hui.
Alors il y a un facteur qui reste déterminant, bien sûr, c'est la politique des banques centrales. Ce matin, Christine Lagarde a déclaré que la Banque Centrale Européenne irait aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation. A priori, elle l'avait déjà dit. Elle affirme que l'inflation va rester excessivement élevée pendant encore un certain temps. Pour autant, la Banque Centrale Européenne va sans doute annoncer une hausse de taux de 25 points de base en juillet. On a l'impression qu'il y a quand même un décalage entre ce que dit Christine Lagarde et la faiblesse de ce geste de resserrement qu'on attend en juillet.
Oui, pour le moment, c'est clairement aujourd'hui, encore et toujours, un certain retard de la part de la Banque Centrale Européenne. On le voit, elle est en retard sur les montées de taux, elle est en retard sur la fin des programmes d'achat d'actifs. On a l'impression qu'elle est en retard sur l'intensité des hausses de taux par rapport à l'urgence de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui en Europe et partout dans le monde. Donc on voit la Fed qui a déjà commencé, qui a un discours relativement ferme, et Christine Lagarde qui toujours et encore reste très prudente et anormalement prudente aujourd'hui.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, excusez-moi, mais que la BCE rate la fenêtre de tir pour relever ses taux?
Elle est déjà en retard, donc elle est déjà en train de la rater. Alors évidemment, heureusement, elle va devoir le faire et elle va le faire. Alors elle nous dit quand même qu'elle va commencer doucement, un peu comme la Fed quand même l'avait fait. Faut se rappeler que le premier mouvement de la Fed, ça avait été
25 points de base.
25 points de base également, et qu'après, elle avait augmenté les hausses de taux avec des hausses plus importantes. Donc c'est un peu ce qui se dessine quand même pour la zone euro et pour la Banque Centrale Européenne. Donc elle va un petit peu suivre ce qui a été fait par la Fed, mais encore une fois avec du retard et malheureusement qui va être dur à rattraper parce qu'en plus, on est dans une situation en Europe plus compliqué que la situation américaine, avec des niveaux d'endettement qui sont très importants de la part des États.
Avec une fragmentation du marché de la dette.
Exactement, il y a un marché obligataire des emprunts d'État qui se disloque un tout petit peu, puisqu'on a des écartements entre la dette d'État des pays corps et c'est-à-dire la France et l'Allemagne, grosso modo, mais par rapport à tous les autres. Donc aujourd'hui, ça peut avoir ce retard, peut avoir des conséquences non négligeables, d'où le fait qu'elle ait annoncé la possibilité de réfléchir à la création de mécanismes de fonds spéciaux pour pouvoir attaquer ce problème si jamais il devait devenir trop important, c'est-à-dire pouvoir finalement engendrer une baisse des spreads de crédit de la part de la dette d'État.
Vous pensez que c'est la principale raison pour laquelle la BCE marche sur des œufs ?
Elle est dans une situation qui est compliquée, c'est-à-dire que si elle monte les taux trop vite, ça va avoir un frein très fort sur l'économie, qui est déjà pas dans une situation simple, avec les prix des matières premières et du pétrole très très élevés, des situations où on a une inflation qui est très forte, des entreprises qui vont être un petit peu mises à mal, un coût du crédit qui devient compliqué. Donc aujourd'hui, oui, elle marche sur des œufs parce qu'elle s'est mise un petit peu dans un corner. Donc malheureusement, elle aurait dû, je pense, intervenir plutôt, profiter de ce que faisait la Fed pour intervenir également et ne pas attendre, comme elle l'avait tant dit, on va faire l'un après l'autre, les programmes de rachat d'actifs, et après on montera les taux. Elle aurait dû aller beaucoup plus vite, et aujourd'hui le retard est un peu pris.
Est-ce que les banques centrales ne sont pas en train de faire une erreur en relevant leurs taux de manière très rapide, notamment aux États-Unis? C'est ce que pense en tout cas Wilfried Galland. Il sera avec nous tout à l'heure dans le club à partir de 17h. Quel est votre sentiment?
Je pense qu'ils doivent intervenir aujourd'hui, parce qu'il y a une situation qui n'est pas tenable dans le temps. On ne peut pas rester avec de l'argent abondant en permanence, gratuit, voire à taux négatif. Ce n'est pas viable dans une économie sur le long terme.
Donc il fallait normaliser les politiques monétaires. Pour autant, est-ce que la hausse aux États-Unis n'est pas trop rapide?
Mais est-ce qu'elle n'est pas surtout déjà, elle aussi, trop tard? C'est-à-dire qu'elle aurait dû le faire déjà avant. Il faut savoir que l'ajustement post-Covid a été extrêmement rapide. Quand on voit la remontée des marchés financiers, tant obligataires que actions post-Covid, ça a été extrêmement rapide. Et là, la Banque Centrale avait déjà pris un peu de retard. Donc aujourd'hui, elle doit intervenir, mais elle doit aussi le faire en regardant de manière très proactive par rapport aux économies pour ne pas les heurter trop fort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, elle intervient trop tard, qu'elle doit le faire, mais qu'elle doit quand même y aller tout doucement parce que, encore une fois, il ne faut pas casser le modèle économique et il faut que le canal de transmission, que sont les valeurs financières, pour transmettre la politique monétaire jusque dans l'économie réelle, soit intact. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller très doucement également.
Les pays du G7 sont favorables à un plafonnement des prix du gaz et du pétrole russe. Message évidemment très politique, soutenu par Emmanuel Macron. Pour autant, est-ce que, à votre avis, c'est applicable? Et surtout, quel impact est-ce que ça peut avoir sur les valeurs pétrolières?
Peu applicable dans la réalité des faits, puisque des pays producteurs, il y en a qui appartiennent à l'OPEP, d'autres non. Des pays qui aussi appartiennent au G7, d'autres non. Donc, encore une fois, en plus, il y a plein de méthodes pour aller exporter du gaz et du pétrole. Donc aujourd'hui, c'est un peu du jeu politique. Là, on le voit plutôt comme ça. Il y a de la demande. La demande est en train de revenir. On a la Chine qui se réouvre, on a le tourisme qui continue à augmenter, l'aérien qui va de l'avant. Donc la demande en pétrole, elle va continuer à être très forte. Donc aller aujourd'hui plafonner les prix, vouloir mettre un frein à tout ça, ça pose beaucoup de questions, ça va organiser beaucoup de circuits parallèles, et je suis pas sûr que ça soit la meilleure méthode aujourd'hui, si ce n'est pour le jeu politique actuel qui existe et le discours vis-à-vis évidemment de la crise qui est entre l'Ukraine et la Russie.
Sabrina Quagliozzi nous parlait il y a quelques minutes des valeurs bancaires aux États-Unis. Quatre banques américaines, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America et Wells Fargo, ont relevé leurs dividendes après avoir affiché de solides performances lors des tests de résistance de la Réserve fédérale américaine. C'est une surprise ?
C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle surtout, parce que ça confirme plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que les bilans des banques sont très sains. Donc ça c'est une très 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 bonne nouvelle, parce que quand on le disait tout à l'heure, le canal de transmission de la politique monétaire, ça passe par le système bancaire. Donc il faut que les banques soient en pleine forme, que les bilans soient sains, pour pouvoir avoir des effets de la politique monétaire jusque dans l'économie réelle. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième, c'est que les hausses de taux sont bien absorbées par le système bancaire. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des dépôts. Donc ça va permettre d'augmenter pour les banques, ça va permettre d'augmenter leur marge également. Donc ça, c'est tout des choses qui sont très positives et une bonne nouvelle pour l'actionnaire. Ça montre aussi qu'on peut continuer à investir dans des actions pour leurs dividendes, qui encore une fois est une source de revenus important pour l'actionnaire. Donc on est plutôt très content de ces nouvelles-là.
Chez Pergam, vous êtes en train de mettre des valeurs du luxe dans les portefeuilles qui n'en ont pas. Pourquoi est-ce que c'est le moment de revenir sur ces valeurs ?
C'est des valeurs qui sont très bien gérées. On a la chance en France, notamment, d'avoir des grands leaders mondiaux des valeurs de luxe, que ce soit LVMH, Hermès et compagnie, particulièrement ces deux-là, en tout cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les titres ont beaucoup baissé sur leur plus haut. Ils étaient peut-être valorisés un peu cher, mais on a des facteurs qui sont là et qui sont bien là. La croissance est là, la Chine est en train de se réouvrir. On voit que le flux touristique en France reprend très vite, très fort. Donc c'est plutôt un sentiment positif par rapport à cet univers-là, à ce secteur-là. Donc aujourd'hui, investir pour du long terme sur ces valeurs-là, on investit en tout cas avec des cours qui sont bien meilleurs qu'il y a 6 mois ou 1 an. Donc aujourd'hui, on est assez rassuré quant à la pérennité de ces entreprises, à leur croissance future, à leur capacité d'adaptation. Donc on est plutôt favorable à en avoir dans les portefeuilles, en fonds de portefeuille, c'est parfait.
Vous avez des préférences, plutôt des valeurs de bonne qualité type Hermès ou LVMH, ou des valeurs un peu plus décotées comme Kering ?
Alors j'irais plutôt sur aujourd'hui les Hermès et LVMH pour deux raisons différentes. Hermès parce que c'est le premium du premium. Ça c'est le premier choix. LVMH c'est parce que s'il y a plus de diversification. En plus il a fait beaucoup d'achats ces derniers temps dans différentes choses, dans l'hôtellerie avec Belmont, dans Tiffany. Toutes les marques d'LVMH sont assez cohérentes. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à préférer celle-là. Là où Kering est un tout petit peu plus dépendant de Gucci. Donc encore une fois c'est un peu différent. Il y a des périodes pendant lesquelles il faut avoir toutes sont très bien gérées. Que ce soit Kering, LVMH ou Hermès, elles sont toutes les trois très, très bien gérés. C'est juste qu'il y a des périodes peut-être plus favorables à avoir Hermès et LVMH, d'autres où il faut avoir un peu plus de booster avec Kering.
Un dernier mot sur les cycliques industriels. Vous revenez sur ces valeurs ?
Sur les valeurs qui sont surtout en croissance cyclique et croissance rentable. Ça peut être du Schneider, du Legrand, mais aussi des valeurs comme Téléperformance, comme Steadim, qui ont finalement une croissance, qui sont rentables, qui ont beaucoup baissé en termes de valorisation, en termes de cours aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est des valeurs qu'on continue à apprécier sur le moyen long terme, parce que justement, on est revenu sur des niveaux très acceptable sur la valorisation historique, et on est sur des sociétés qui restent en croissance. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand on dit que l'économie connaît un petit ralentissement et risque de connaître un ralentissement, il vaut mieux aller sur des sociétés qui ont une croissance qui est toujours là, qui est pérenne et qui ont aujourd'hui des niveaux de rentabilité qui restent à des niveaux importants. Et ça, c'est ce qui permet pour l'actionnaire d'avoir une certaine visibilité sur le long terme sur ses performances futures, en tout cas.
Pour autant, on n'est pas sûr que l'économie américaine entre en récession. Il y a débat au sein de la Fed.
Il y a beaucoup de débats là-dessus. En tout cas, ce qu'on semble quand même percevoir dans ce débat, c'est une chose, c'est qu'on ne va pas sur une, ce qu'on appelle une hard recession, une récession qui soit très forte et qui puisse durer très longtemps. Donc, pourquoi ? Parce que les banques centrales sont aujourd'hui ultra pragmatiques et vont rester ultra pragmatiques, en tout cas on le souhaite, elles l'ont prouvé lors des dernières crises, et c'est ce qui nous permettrait en tout cas, d'éluder totalement ce scénario de hard recession, et donc ça pourra peut-être avoir une petite récession, mais du coup c'est ce qui nous permet de rester encore constructif sur les marchés financiers, que ce soit sur les marchés actions, mais également sur les marchés de taux qui commencent à offrir des opportunités plutôt intéressantes.
Merci beaucoup, Aymeric Didet, directeur de la gestion chez Pergam. On va maintenant parler d'un changement de paradigme pour les marchés.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
On en parle avec François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. Bonjour François.
Bonjour Stéphane.
Vous estimez que le contexte boursier a changé. C'est la hausse de 3,2% de vendredi qui vous fait dire ça, et celle de 1,4% aujourd'hui ?
Oui, en fait, on a vu que vendredi, le marché ne réagissait pas comme il avait l'habitude de réagir depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce qui s'est passé vendredi, c'est que le marché a changé de vision et de perception. C'est qu'il s'est mis à se dire que finalement, les bonnes nouvelles, c'était des bonnes nouvelles. Donc la mauvaise devient une bonne nouvelle. On a déjà connu ça au moment des dettes souveraines, etc., où le marché apprécie finalement quand la mauvaise nouvelle tombe, parce que ça aura des implications qui seront probablement positives.
Concrètement, ça va freiner l'élan des banques centrales.
Concrètement, voilà, c'est ça. On a vu qu'il y avait une accumulation entre la dégradation du climat des affaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis, l'indice de l'Université du Michigan qui était pas très bon sur le moral des consommateurs. On a le climat des affaires en Allemagne qui était pas bon, etc. Et le marché s'est mis à bien réagir parce que le marché se dit finalement, c'est la récession qui va permettre de trouver une solution à l'inflation, et ce n'est pas les banques centrales qui auront la main là-dessus. Donc on a un marché qui, bizarrement, étrangement, se dit, cette récession, elle est souhaitable, et donc on va essayer de créer de la valeur avec cette récession, parce qu'on est dans une logique où on se dit que cette récession, elle sera peut-être temporaire. Temporaire, ça vous dit peut-être quelque chose, Stéphane, c'est que l'année dernière, on disait inflation temporaire, exactement. Et là, on est dans le scénario où on aurait probablement une récession temporaire, qui serait bien sûr sous contrôle, puisque on estime que les banques centraux peuvent faire finalement pas mal de choses pour éviter une récession sévère. Et on a vu là aussi la semaine dernière Jérôme Powell qui a reconnu devant le sénateur que le scénario d'une récession, on ne pouvait plus l'écarter aujourd'hui, parce que cette inflation massive, un peu hors contrôle, finalement, elle étrangle, elle étouffe l'économie. Donc on est en train de changer de mécanisme où finalement les mauvaises nouvelles permettent aux indices, aux actions de progresser. Et ça, c'est vraiment un phénomène nouveau qu'on n'avait pas vu encore depuis plusieurs mois et depuis plusieurs trimestres, voire plusieurs années.
Vous croyez au scénario d'une petite récession aux États-Unis ? Jérôme Powell, vous venez de le souligner, assume ce risque, il l'a dit la semaine dernière. En revanche, certains membres de la Fed, eux, n'y croient pas.
Disons que c'est difficile. En fait, quand ça dérape, on a du mal à voir après si finalement c'est une sortie de route ou juste un léger dérapage, un léger freinage. Donc on a vu que là où on peut être inquiet, c'est que quand on avait pas mal d'économistes, dont les économistes des banques centrales nous expliquaient que cette inflation était temporaire, ils l'ont martelé des mois et des mois l'an dernier, et finalement on a vu que elle est toujours là et qu'elle gagne encore en ampleur en mai par rapport à mars. Mars qui devait être un pic selon Jérôme Powell, là aussi deuxième erreur, donc erreur de 2021 temporaire. Deuxième erreur de dire le pic ce sera mars, et on a vu qu'en mai l'inflation était plus élevée qu'en mars, donc ça continue. Donc on peut se poser des questions, est-ce qu'ils arrivent encore à prévoir ce qui va se passer. Donc il y a quand même une prudence au niveau des banquiers centraux, une prudence aussi au niveau des économistes, et donc c'est un peu le consommateur qui lors de la rentrée scolaire va montrer s'il continue d'avoir confiance, est-ce qu'il puise dans son épargne, peut-être aux États-Unis, mais peut-être pas en Europe, parce qu'on a un consommateur qui est quand même plus frileux. Alors certes, il a envie de passer des belles vacances, donc il va peut-être consommer en juillet-août, mais à la rentrée, ce sera peut-être un autre scénario. Donc il faut quand même être prudent, parce que lorsqu'on ouvre la boîte récession, c'est c'est pas facile d'en sortir.
Ouais. Comment est-ce que vous voyez évoluer la rotation sectorielle sur les marchés actions?
Là, ce qu'on est en train de voir, Stéphane, c'est que finalement, on a une inflation qui est là, qui est forte. Alors, on ne sait pas si c'est un pic ou un plancher, mais en tout cas, on la voit pas reculer dans l'immédiat. En revanche, ce qu'on voit reculer fortement, c'est la croissance. Donc, on est plutôt sur beaucoup d'inflation et peu de croissance. Et donc ça va amener de nouvelles rotations sectorielles. La première rotation sectorielle qu'on a connue en début d'année, c'est on vend les valeurs de croissance parce que la hausse des taux les rend très très chères et on va sur la value. Au départ, on est allé sur la value consacrée aux matières premières, puis on est allé un petit peu davantage sur les banques parce qu'on dit les matières premières, attention, s'il y a ralentissement économique et s'il y a moins de demande, on peut avoir des prix qui vont refluer. Et donc là, et maintenant, je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle rotation sectorielle qui va dire attention aux valeurs endettées. Valeurs endettées parce que, tout doucement, c'est simple, si vous avez une activité qui croît un peu moins vite, mais que vous avez le coût de votre dette qui continue qui augmente fortement parce qu'on part de zéro ou on a même eu des financements à des taux négatifs, donc vous allez avoir des hausses des charges financières qui risquent de manger les bénéfices. Et donc, on va avoir, je pense, dans les semaines et les mois qui viennent, une chasse aux valeurs endettées. On va mettre la pression, les investisseurs vont mettre la pression au management pour ou faire tout de suite des augmentations de capital pour financer leurs projets ou reporter des investissements parce qu'on va se mettre à réétudier le coût de la dette, comme il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, on se mettait à réétudier sur est-ce que vous arrivez à trouver suffisamment de main-d'œuvre. Donc là, on était sur un sujet main-d'œuvre pour la croissance et on va basculer tout doucement sur un sujet dette qu'on n'a pas connu depuis 2007-2008. Donc les analystes vont devoir réétudier le sujet. Il n'est pas tant maintenant sur le compte de résultats, mais il va basculer sur le bilan et de dire maintenant comment vous financez vos projets. Et là, une des premières victimes de cette rotation, si cette rotation se confirme, ça va être le private equity. Le private equity, on a eu des opérations qui ont été faites avec des effets de levier considérables, et c'est normal. Il y a même eu une compétition que le private equity a emportée par rapport aux introductions en bourse, parce que le private equity était capable de mettre des prix supérieurs pour acheter une entreprise que si le patron décidait de la mettre en bourse. Donc on a des multiples qui sont élevés, qui sont très élevés, des multiples qui n'ont aujourd'hui pas baissé, alors que la bourse, on a eu des multiples qui n'ont cessé de baisser depuis le début de l'année. Le PER moyen de CAC 40 est passé de 16 fois à 11 fois sur les gestionnaires de private equity. Pour l'instant, ils n'ont encore rien vu, en disant c'est pas grave, on n'est pas obligé de revoir nous tous les jours ou tous les mois, on verra plus tard. Simplement, à un moment donné, quand vous êtes dans le private equity, votre objectif, c'est de revendre la société que vous avez réorganisée, restructurée, mise sur les rails. Et là, on va avoir beaucoup de frottements parce que ceux qui ont acheté il y a quelques années ne pourront pas revendre avec des plus-values, en tout cas une belle plus-value, et peut-être que souvent il y aura des moins-values. Donc il va y avoir des frictions. Et le marché du private equity, c'est un marché qui est beaucoup plus riche que le marché des crypto-monnaies. Donc on a eu le crack sur les crypto-monnaies. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est surveiller l'état de santé du private equity, des investisseurs dans le private equity, parce que là, on va avoir un véritable sujet. C'est tout simple, quand vous achetez une entreprise et puis que vous la financez avec des taux à zéro et que demain vous les financez avec des taux de 4 ou de 8%, eh bien tout de suite, c'est pas la même histoire. Vous attendez pas le même niveau de rentabilité et vous acceptez pas de payer ce prix-là. Il faut défalquer le coût du financement. On avait des coûts gratuits, on passe à des coûts qui redeviennent normaux. Donc, mais c'est bien, c'est une normalisation. Donc il faut rester confiant, mais il faut voir qu'il y a concrètement pas d'excès sur la bourse, mais il y a des excès de valorisation sur le private equity. Et ça, on l'a pas encore vu parce que les acteurs du private equity, eh bien, ils refont leur système de valorisation beaucoup plus tard. Donc la hausse des taux n'est pas encore dans les cours du private equity. Et là, je pense qu'on aura quelques surprises.
En tout cas, ça va peut-être donner un coup de frein aux opérations de private equity.
Ça va donner un coup de frein aux opérations de private equity.
Ça a déjà commencé, d'ailleurs.
Ça a déjà commencé et on devrait avoir peut-être pour d'autres acteurs qui sont cotés en bourse, qui ont de la dette, une demande pour des augmentations de capital assez rapidement parce que ça va être tendu de se financer de façon plutôt classique.
Merci beaucoup, François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir. À suivre. La Bourse de Paris en progression de 1,43%. On ira voir Aude Kersulec au siège d'Euronext pour faire les points. On en parlera également avec Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. Et puis, on passera en revue l'actu américaine, comme tous les jours à cette heure-ci. Ce sera avec Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. On parlera notamment de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, publication dans moins de 2 minutes maintenant. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.